qui maîtrise les lois de l'herméneutique et la façon d'interpréter la loi. Mais il nous a donné, en parlant de doute, car nous voulons quand même détruire, disons-nous, cette impression quand M. Maillard fait valoir que le doute doit profiter aux prévenus. Et sur quoi se base-t-il pour établir le doute? Sur une différence de prix entre les prix portés indiqués par les communiqués du département du commerce. Lorsque le législateur de 1946 a pris la loi sur le marché noir, la loi a eu bien, il a eu soin de préciser que les prix seront déterminés par un communiqué du département du commerce. Cela veut dire qu'un article qui a tel prix aujourd'hui peut demain ne pas avoir ce même prix. Ce qui veut dire, lorsque le département du commerce, aujourd'hui, 2 avril, indique un prix pour le gallon d'huile, il se peut que demain ou après-demain, il donne un autre communiqué pour donner un autre prix. Cette différence, ou plutôt ce changement, n'est pas l'expression d'un doute. Cela ne veut pas dire que le département du commerce ne soit pas renseigné sur le prix et sur le véritable prix qu'il faut imposer pour l'article. Cela veut dire tout simplement, et nous reprenons comme argument, l'argument de Maître Constantin Maillard, la hausse des prix, l'État n'est pas indifférent à la hausse des prix. Lorsque l'État fixe les prix, ce n'est pas de façon hasardeuse. Nous savons que les opérations, certaines opérations, il y a parlé de dévaluation de dollars, nous savons que certaines opérations de bourse effectuées sur des marchés étrangers doivent nécessairement produire une influence sur certains marchés, plus particulièrement sur le marché haïtien. Lorsque le département du commerce aujourd'hui fixe un prix et que demain il en arrive à fixer un autre prix, il ne s'agit pas de rectification, mais il s'agit plutôt de l'appréciation de certaines influences, de certains incidences économiques qui portent le département du commerce à fixer un autre prix pour tel produit fixé hier. Donc, ce changement de prix apporté dans les deux communiqués n'est pas une rectification, car le département du commerce aurait bien pu dire dans le deuxième communiqué que ce communiqué annule celui publié hier et qui apportait des prix pour certains produits. Mais il ne l'a pas dit. Le département du commerce se réservant d'apprécier le coût de la vie, se réservant d'apprécier les circonstances qui l'ont porté à fixer tel prix pour tel produit, 24 heures ou 48 heures à l'avance ou bien une semaine ou un mois après prendre notre communiqué et pour dire que le prix de gallon d'huile ne sera pas vendu à 16 gourdes ou à 11 gourdes mais sera vendu à 14 gourdes ou à 10 gourdes selon les renseignements et selon l'appréciation du département du commerce. Il n'est pas question pour le département du commerce de douter des choses ou bien de donner des communiqués imprécis. Les différences de prix des communiqués ne sont pas l'expression d'un doute dont le prévenu peut bénéficier. Nous savons qu'en matière pénale, on veut faire toujours profiter le prévenu. Le prévenu profite toujours du doute. Et Maître Constantin Maillard, nous la remercions, nous a donné lecture d'un passage d'un livre écrit par un éminent professeur dont la voix fait autorité en matière juridique. Mais là n'est pas la question. Il n'y a pas de doute pour le cas qui est soumis au tribunal. Lorsque on veut apprécier les différences de prix, un prix apporté aujourd'hui par un communiqué, demain le département du commerce donne un autre communiqué. Nous ne sommes pas là pour... Nous sommes là effectivement pour donner des explications et qu'on ne nous dise pas que nous voulons défendre le département du commerce. Mais nous disons tout simplement qu'on ne peut pas déduire de cette différence de prix un doute, c'est-à-dire que le département du commerce ne serait pas suffisamment renseigné pour indiquer un prix. Il y a eu une différence. Cette différence, l'État est seul juge. Le département du commerce ou le gouvernement est seul juge des raisons qui l'ont porté à descendre ou bien à augmenter le prix. Ceci, c'était à l'attention du juge pour que le juge ne croie pas ou bien ne se laisse pas induire en erreur par l'évocation de ce doute fait par Maître Constantin Maillard. Et d'ailleurs, Nous ne voulons acculer personne. Quel est le devoir d'un commerçant? Quel serait le devoir de Maître Constantin Maillard, commerçant, s'il arrive à déceler dans des communiqués une certaine confusion, un certain doute, pour ne pas être frappé par la loi? Quel est le devoir d'un commerçant qui a des doutes sur le prix de tel ou de tel article? On sait la procédure à suivre. On sait la procédure à suivre lorsque le commerçant n'est pas fixé, lorsque le commerçant n'est pas fixé sur le prix de tel article. Et nous avons vu le commerce prendre ses précautions depuis que ces répressions sont exercées. Le commerçant s'abstient purement et simplement. Car pour les produits pour lesquels il y a un doute, lorsque le prix de certains produits n'est pas déterminé, on a vu le commerçant s'abstenir et refuser de débiter tel produit, disant que nous attendons des éclaircissements du département du commerce. La question aurait été différente si le département du commerce ou bien le gouvernement de la République faisait des saisies de stock ou bien viendrait contrôler les stocks des commerçants pour voir que les marchandises sont stockées et qu'on refuse de les vendre. Mais là n'est pas la question. Un commerçant qui trouve qu'il y a une certaine confusion et qui ne sait comment appliquer quel des communiqués émis par le département du commerce s'abstient purement et simplement. Donc on n'a pas à se servir, on n'a pas à se servir de ces communiqués, des prix, des différences de prix portées dans les deux communiqués pour dire qu'il y a un doute parce que le département du commerce ne serait pas suffisamment renseigné sur les prix à donner. Aujourd'hui, on donne un prix, demain, selon les circonstances, on peut encore donner un prix. Et ce prix n'affecte en rien le profit que le commerçant doit réaliser. Magistrat, nous avons encore une deuxième remarque à faire. On a voulu confondre un communiqué du département du commerce et une loi. L'avocat de la défense tout à l'heure a dit que on devait accorder un certain délai. On devait reconnaître, accorder un certain délai avant l'entrée en vigueur du communiqué du département du commerce. Nous vous faisons remarquer que dans l'article 1er de la loi de 1946, le législateur a pris soin de dire que les prix des articles seront déterminés par des communiqués du département du commerce. Cela veut dire que à l'époque où cette loi a été prise, il n'a pas été possible au législateur de dire que les articles seront vendus à tel et à tel prix. Et tel prix adopté aujourd'hui peut ne pas être maintenu demain. Cela veut dire aussi qu'on n'a pas à se baser, on n'a pas à donner à un communiqué du département du commerce la force d'une loi. La loi prévoit le communiqué. La loi dit que les prix seront fixés par un communiqué du département du commerce. Le devoir du commerçant, c'est d'attendre ce communiqué et de dire que j'ai vendu à tel prix, me conformant au communiqué du département du commerce. Je n'ai pas vendu à tel prix parce que des communiqués n'ont pas fixé le prix. Mais la loi est là. On ne faisait aucun cas de la loi. On l'a tout simplement violée. On n'a qu'à s'en prendre à soi-même et dire que je reconnais avoir commis une erreur, ou plutôt ceci est arrivé par une négligence. Je n'ai pas eu le temps moi-même ce matin. Comme il n'y a que 24 heures depuis que le communiqué a été publié, je n'ai pas eu le temps de faire des ajustements, de faire de nouveaux prix, mais assimiler un communiqué du département du commerce à une loi et dire que l'application de cette communiqué requiert un délai, alors là, nous ne sommes pas d'accord et je prie le juge en siège de quoi aussi d'admettre notre point de vue en ce qui concerne l'application, le délai pour le communiqué entre en vigueur directement au moment même de sa publication. Et je crois que si maître l'avocat qui a émis cette opinion, il ne l'a pas donnée entièrement, car je sais qu'en matière administrative, et en droit administratif surtout, il est très versé en droit administratif. C'est une opinion qui a été rapportée par un auteur, d'ailleurs je n'ai pas besoin de citer le nom de l'auteur. On a fait certains commentaires sur la valeur d'un communiqué et le délai pour que ce communiqué entre en application. Et on a même dit, l'auteur de ce grand professeur en droit administratif, a même dit que dans des cas de crise aiguë, le département du commerce est autorisé à faire signifier certains communiqués ou plutôt certaines décisions administratives par des huissiers de son département directement à certains commerçants ou bien à des groupes de commerçants concernés par ce communiqué. Mais le cas Tel n'est pas le cas ici. Le département du commerce, la question de hausse des prix, ce n'est pas une affaire étrangère, ou plutôt ce n'est pas une affaire subite. Ceci ne vient pas du jour au lendemain. Il y a déjà plus d'une année depuis que sur les journaux et dans le public, on parle de hausse des prix. Et le public, les consommateurs attendaient avec impatience l'intervention de l'État pour fixer les prix de certains produits dits produits de première nécessité. Car, enfin, nous sommes des consommateurs, les avocats de la défense aussi sont des consommateurs, et ils savent aussi, et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils attendaient cette intervention du département du commerce. Lorsque le département du commerce fixe les prix, on n'a pas à dire qu'il faut un certain délai, car il faut entrer dans les considérations qui ont porté le législateur de 46 à prendre cette loi. Il faut lire plutôt ce qu'on appelle, il faut aller à ce qu'on appelle les travaux préparatoires de la loi de 46 pour voir les motifs qui ont inspiré le législateur de 46 à prendre cette loi. Quel était le désir, quel était l'objectif du législateur de 46 en prenant cette loi? C'était de juguler un trafic illégal, c'était de contrecarrer le marché noir. Or, lorsque le gouvernement de la République, pour des raisons d'ordre public, estime nécessaire de prendre des lois, il n'est pas nécessaire que l'on vienne dire que ce communiqué ne peut entrer en vigueur qu'après un délai de 48 heures ou un délai de 36 heures. Magistrat, on a dit aussi que, naturellement, on est autorisé à le dire, mais le tribunal n'est pas autorisé à l'admettre. On a dit que le journal, le nouveliste qui a publié le communiqué du département du commerce a remis un peu fort tard dans la soirée et dans certains quartiers, c'est peut-être le lendemain que ce journal est remis aux abonnés. Mais il faut voir que entre la répression qui a été exercée, entre l'action exercé par le gouvernement pour constater, pour juguler cette hausse des prix, entre la répression qui a été exercée et qui justifie la présence de ce prévenu sur le banc de l'accusation et la publication du communiqué du département du commerce, il s'est écoulé plus de 24 heures. Il s'est écoulé plus de 24 heures. Et si j'ai bonne mémoire, si nous avons bonne mémoire, nous pouvons dire que le jour même de la publication du communiqué du département du commerce, vers les 1h ou 2h de l'après-midi, la radio avait déjà donné au public, avait déjà lu à la radio, le texte de ce communiqué avait été lu à la radio. Naturellement, on peut dire qu'à cette heure-là, on est occupé, on est pris par son travail, on n'a pas le temps de faire de la radio, on n'écoute pas la radio à cette heure-là. Mais je sais aussi que le commerçant, comme le consommateur, est intéressé à toutes les décisions que le gouvernement de la République peut prendre à n'importe quel moment. Car il se peut qu'à votre sortie de l'audience, à votre sortie du tribunal, vous tombiez, ou bien au moment où vous êtes là, vous tombiez sur un communiqué fixe d'autres prix pour d'autres articles. Cela ne veut pas dire, on ne peut pas dire que, on ne dira pas qu'il n'y a pas eu de publicité autour de ce communiqué et que c'est peut-être fort tard ou bien le lendemain que le journal a été remis. Nous autres, quand le communiqué a été publié par les organes de la presse écrite, mais les organes de la presse parlent et la radio a eu la précaution le jour même de l'émission de ce communiqué d'en lire le texte. La lecture de ce texte a été donnée. Magistrat, on a voulu encore et trouver des excuses en disant qu'il n'y a pas de précision sur le prix de l'huile. Parfois, on dit 11 gourdes, parfois, on dit 16 gourdes. Mais on n'a jamais dit 17 gourdes, on n'a jamais dit 18 gourdes. Cela veut dire que si le commerçant n'est pas fixé sur le prix de l'huile, si un communiqué dit 11 gourdes, que notre communiqué dise 16 gourdes, mais le prix que le commerçant pourrait fixer devrait rester en deçà, c'est entre 11 gourdes et 16 gourdes. Le gouvernement n'a pas à faire grief à un commerçant qui aurait vendu son huile à 15 gourdes. Mais quand vous vendez votre huile, quand on vous demande de vendre l'huile à tel prix, si vous vendez l'huile à un prix plus élevé, vous ne pouvez pas vous invoquer une, une différence entre, entre deux prix portés sur deux communiqués pour dire que je n'ai pas su à quel prix vendre parce qu'il y a un premier, d'une part dans le communiqué on dit 11 gouttes, d'autre part on parle de 16 gouttes. Votre devoir, si vous ne saviez à quel prix vendre votre huile, était de vous abstenir et d'obtenir des précisions, de nouvelles précisions du département du commerce. Et je fais encore remarquer que cette différence de 11 gouttes et de 16 gouttes proviennent de deux communiqués différents. Lorsqu'un communiqué, un autre communiqué donne de nouveaux prix pour un même article, cela ne veut pas dire qu'il y a eu rectification du département du commerce et cela n'emporte pas le doute en faveur du commerçant. Magistrat, il y a un dernier point et j'attendrai peut-être le retour du collègue qui, avant moi, occupait le siège du ministère public. Il y a un autre point sur lequel je vais attirer l'attention du tribunal. C'est le dernier peut-être. C'est sur l'exception de qualité. Sur l'exception de qualité. Nous avons déjà fait valoir nos arguments pour dire que en cette matière, en matière correctionnelle, cette exception ne joue pas. Un prévenu, M. Coles, est traduit devant la police correctionnelle. M. Coles sera jugé par la police correctionnelle et en face des arguments et des faits qui sont reprochés à M. Coles dira qu'il n'en est pas l'auteur. Il n'est pas question de dire que d'opposer une exception de qualité. On vous reproche des faits dont vous n'êtes pas l'auteur. Vous n'avez qu'à vous défendre et dire tout simplement que je ne suis pas propriétaire du Coles Market. Je n'ai rien à voir dans les activités du Coles Market. Et là, s'arrête la question. Et le juge, dans sa sagesse, dans son équité, dans sa sagesse, dans son équité, dira que vous renverra hors des liens de la prévention, hors de cause. Mais nous reprenons que cette exception de qualité ne joue pas. Et dans l'espèce qui nous est soumise, qui est soumise à votre appréciation, c'est une façon tout simplement de dire, de faire, de nous jeter dans un labyrinthe et de dire que telle maison de commerce ou bien telle organisation commerciale échappe à toute sanction de la justice haïtienne. Car c'est une société insaisissable, une société qui est représentée par un procurateur ou bien par l'universalité des héritiers. Il est du devoir du gouvernement de la République. Le gouvernement de la République a le droit et le devoir d'intervenir toutes les fois qu'il estime menacer les intérêts du peuple. Toutes les fois qu'il estime nécessaire de prendre certaines décisions pour protéger. Magistrat, ce que je dis, ce que nous apportons maintenant a toute son importance, car ceux-là qui le disent, les avocats qui le disent, ce sont des chevronnés d'abord. Ils connaissent très bien que la justice n'est pas liée, que le juge n'est pas lié par cette exception. Dire que Gérard Coles n'est pas le propriétaire de Coles Market pour dire que la justice ne peut exercer aucune action contre Coles Market. Dire que nous ne sommes pas, que la justice n'est pas en présence de l'auteur du fait reproché à Coles Market, c'est mettre les établissements Coles en dehors de toute sanction légale. Nous attirons l'attention du juge en siège sur cette exception de qualité. Et quand nous le disons, nous faisons abstraction de toutes les personnalités. Nous faisons abstraction, nous ne faisons pas de procès d'intention. Nous ne voyons pas Coles, nous ne voyons pas Constantin Maillard, nous ne voyons pas Rodrigue Casimir, mais nous voyons un établissement commercial qui, dans des cas déterminés par la loi, qui tombent sous le coup des sanctions prévues par la loi de 1946. Il s'agit tout simplement pour le juge de dire si les faits reprochés au Colts Market sont constants, si les faits sont de nature à retenir une condamnation, à établir une condamnation contre le Colts Market. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que le prévenu qui trône sur la sellette ici n'est pas le propriétaire de Colts Market, que ce Colts Market, que les Market Colts appartiendraient à une, serait l'œuvre d'une association qui n'aurait pas de dénomination, bien qui n'aurait pas de propriétaire déterminé. Ouais, on ne sait si c'est le frère ou bien si c'est l'enfant, si c'est le fils ou c'est le père. Nous disons que sur ce point, pour ce qui a trait à la réquisition des peines que le ministère public doit faire pour le cas de Georges Colts, nous allons demander à celui qui nous a précédé à cette barre de faire la réquisition nécessaire.
Magistrat, suivant à peu près la tactique des avocats de la défense, le parquet est indivisible. A jugé bon de se faire représenter d'abord par votre serviteur et ensuite par l'un de ses substituts, Maître Hippolyte Dervitus. Nous ne reprendrons pas l'ensemble de l'examen fait par le représentant du parquet il y a cela quelques minutes. Nous permettrons de reprendre une partie, je dirais, de son développement. Les débats oraux, car de toute façon, on est en matière pénale, c'est l'oralité des débats qui compte. Les débats oraux nous ont permis de découvrir les mécanismes de fonctionnement des ensembles Colts. Celui qui s'est dit propriétaire a nettement déclaré qu'il a reçu ses droits de son père et que le père n'avait pas un seul enfant. Il est contestablement vrai que l'un des héritiers possédant pour le tout, lorsque nous traduisons ici Gérard Colts, nous traduisons un des propriétaires de la maison Colts et que l'autre n'a pas plus qualité que lui pour dire c'est moi et non lui. Quand vous êtes encore dans l'indivision et il n'y a pas eu de partage, en vertu de quoi réclamez-vous cette maison au lieu de nous contester vous le droit de dire cette maison est à moi pendant. Ce point indiscutablement admis et acquis au débat. Ce point élémentaire, tout malheureusement, nous n'avons pas pu le temps, nous n'avons pas eu le temps de rechercher, nous n'avons pas pu rechercher la confirmation, je dirais, dans le livre du professeur Poignet, écrit à l'intention des élèves de première année de la matière. Ce qui est indiscutable, c'est que votre état d'indivision fait de chacun de vous un propriétaire. Si vous pouvez soutenir le contraire, vous n'aurez encore une fois qu'à reconnaître que de toute façon, vous n'avez pas bien vu tous les aspects. Maître Constantin Maillard-Paul vous dit magistrat. Il y a le doute. Comme s'il suffisait de l'existence du doute chez Constantin Maillard-Paul pour que ce même doute existe chez le juge du tribunal civil. Cette confusion de rôle, je vous en prie, monsieur le confrère, vous n'avez pas le droit de la faire. Seul le juge, dans son intime conviction, peut dire si en lui, il y a doute. Car c'est lui qui juge. Vous et moi, nous demandons. Nous ne jugeons pas. Vous et moi,
Nous soutenons des positions différentes. Moi, j'accuse. Vous vous défendez votre client, le prévenu, qui d'après même la loi a même pour sa défense le droit de mentir. Donc, voilà votre position et voici la mienne. Il revient au juge, nécessairement, dans son cabinet de travail, ou lorsqu'il aura les dossiers sur les yeux, de rechercher les éléments de son intime conviction. S'il ne les rencontre pas, peut-être il va au doute. Ou s'il ne trouve pas de fait, il vous dit que les faits n'ont pas prouvé, je renvoie le prévenu purement et simplement des liens de la prévention. C'est tellement élémentaire tout cela qu'il n'est pas nécessaire d'aller à foyer. Je disais donc, magistrat, les représentants, les avocats de la défense, nous ont dit, le délit n'est pas prouvé. Et tout en disant que le procès-verbal dressé est valable, non inexistant, c'est ce que vous avez dit. J'étais absolument la merde et je ne suis pas déplacé. Pas une minute. Vous pouvez avoir encore l'opportunité de rectifier votre pensée si vous voulez. Nous avons apporté au tribunal un procès verbal et des témoins qui ont prouvé quoi? Qui ont prouvé des faits reprochés à Paul Sparquet à partir d'un communiqué publié par le département du commerce. Adorable façon de se défendre que de dire, lorsque j'expose dans mon magasin des marchandises à un prix, je ne les expose pas pour les vendre. J'entre dans un magasin pour faciliter la tâche du consommateur, pour lui enlever peut-être le temps qu'il aurait perdu en vous demandant à vous directement le prix. Il trouve votre affiche. Et pourquoi mettez-vous l'affiche? Quel est donc son sens? Mais là où la contradiction devient grande, c'est que M. Colse lui-même nous a dit, j'ai eu le temps de rectifier, de préparer certaines listes. J'ai demandé à ma secrétaire de faire ceci ou de faire cela. Les avocats, mais ce n'est pas seulement les déclarations du témoin qui ont été ahurissantes. Pour la première fois, l'avocat se calme sur la déclaration du témoin qu'il représente son témoin. Il nous apporte la position. On ne fait pas. Quelles ont été les principales déclarations recueillies ici et déclarations qui ont été faites par le Pols, tantôt par celui-ci ou par le père. D'ailleurs, sorti d'ici, je serais très heureux d'entendre toutes les grandes thèses des avocats mûrs en économistes. Pour le moment, un délit précis nous intéresse. Le témoignage de Pols, le témoignage de celui-ci, nous permettent de conclure que réellement, ils ont vendu l'huile de soya à un prix dépassant celui communiqué par le département du commerce. Nous ne sommes pas juges des motifs de communiquer à chacun son rôle. Nous ne sommes pas juges de cela. Un communiqué fixe le prix. Vous êtes obligés de respecter le prix. Quant au reste, c'est reconnaître l'existence de votre délit, essayer de le justifier autrement. C'est presque plaider encore, c'est qu'on s'en atteignante, donc c'est presque après qu'on est coupable. De toute façon, seul le département du commerce peut fixer un prix. Il le fixe et on vous a surpris en train de ne pas respecter ce prix. Mais votre opinion personnelle ne nous intéresse pas. Attendez que vous soyez ministre du commerce et vous ferez ce que vous voulez. Mais pour le moment, il n'y a qu'un communiqué qui nous intéresse. C'est celui rendu par le département du commerce. Je regrette donc, magistrat, que mes illustres confrères aient refusé d'avoir recours à l'oralité des débats et à s'arrêter aux déclarations pertinentes des Colts pour baser leurs conclusions, pour tirer leurs conclusions de ces déclarations. Ils ont préféré faire étalage de connaissances. Ils ont préféré se donner plus de personnalité. Mais de toute façon, il reste en débat le procès des Colts et des preuves qui ont été soumises par le ministère public, rattachées au fait qu'ils sont tous des copropriétaires et que arrêter l'un, on peut arrêter l'un comme l'autre, et l'un comme l'autre est responsable de l'île. Je d'arguments n'ai-je pas entendu quant à l'impossibilité de citer au correctionnel certaines sociétés. Je suis persuadé que les avocats n'ont pas pensé à venir ici avec toute leur bibliothèque. De toute façon, ils auraient dû le faire, car ceci leur aurait enlevé la possibilité de dire des choses très sérieuses. Le droit pénal a évolué. Des sociétés sont citées. Et il y a beaucoup de théories et beaucoup de livres sur cela. Mais ce n'est pas le moment pour nous.